Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour. Merci d'accéder si rapidement à la présidence, très rapidement avoir pris vos fonctions en tant que représentant permanent. Merci également à la directrice exécutive de l'UNICEF. Merci, Henrietta. Je m'associe au président pour vous remercier de nous avoir transmis ces belles paroles de sagesse, des paroles de sagesse qui sont très importantes alors qu'il est très tard en Californie. C'est un geste qui témoigne votre souci de partenariat et si je puis me le permettre, cela témoigne aussi de l'amitié institutionnelle et personnelle que vous nous portez. Je vous en suis très reconnaissant. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers rapporteurs, chers nouveaux membres anciens et nouveaux du comité exécutif, la dernière fois que nous nous sommes réunis dans cette salle, c'était à l'occasion du Forum mondial des réfugiés. Nous l'avions quitté fort d'une énergie nouvelle, compte tenu de l'appui sans précédent qui avait été témoigné aux réfugiés et à leur communauté hôte, un soutien exprimé par les gouvernements, des institutions en charge du développement, le secteur privé et la société civile. En tant que haut commissaire adjoint en charge de la protection, Gillian Triggs, micro pour le président, s'il vous plaît, micro pour le haut commissaire, le commissaire est inaudible. Comme comme le dira plus tard au cours de la semaine, pardon, Gillian Triggs, c'est un nombre sans précédent de 1 400 engagements qui avaient été pris, se faisant l'écho du Pacte mondial pour les réfugiés, des engagements en faveur d'une protection, d'un soutien, d'une inclusion, d'une autonomisation et d'une détermination accrue. Et pourtant, nous avons l'impression aujourd'hui que l'année dernière, c'était il y a bien longtemps, alors que la solidarité, nous en avons aujourd'hui plus besoin que jamais. La pandémie de COVID-19 continue de tous nous toucher et j'en veux pour preuve ce qui se passe aujourd'hui dans cette salle où, pour la première fois, nous devons, en 70 ans, nous devons limiter la participation en raison des mesures de distanciation physique. Note de l'interprète, le micro du président s'allume et se coupe de façon intermittente. Et parmi les autres situations fragiles, et pour ceux qui se trouvent en situation fragile, la COVID-19 touche en particulier les personnes réfugiées, déplacées internes, apatrides, ce qui vient ajouter de la vulnérabilité à leur vulnérabilité. Une strate supplémentaire de crise vient s'ajouter à celle qu'ils connaissent déjà. C'est la raison pour laquelle il est utile et opportun à l'ouverture de cette réunion de faire fond sur ce que nous a dit le directeur exécutif et réfléchir à notre action et à la situation des personnes relevant de notre mandat, l'examiner par le biais du prisme qu'est la pandémie, réfléchir aux difficultés, mais aussi aux perspectives qui s'offrent à nous de façon à ce qu'ensemble, nous nous préparions mieux à un avenir incertain. Le HCR est habitué aux situations d'urgence. Nous sommes en première ligne de toutes les crises de déplacement depuis des décennies. Nous sommes là pour aider les réfugiés, mais aussi les personnes déplacées au plan interne. Toutes ces personnes au nom desquelles nous n'avons cessé de renforcer notre engagement, y compris au cours de ces derniers mois. Et pourtant, un riposte a représenté pour nous un défi comme aucun autre, elle a impliqué chacun de nos bureaux où qu'ils se trouvent, dans toutes les régions, et les a impliqués tous de façon simultanée. De nombreux collègues ont été également touchés personnellement et certains, et c'est absolument tragique, ont perdu la vie en raison du COVID-19. Et pour une organisation dont l'action dépend également des contacts personnels que l'on a avec ces personnes qui relèvent de notre mandat et dont on se soucie, qui dépendent également de la présence physique où elles se trouvent, les restrictions que l'on a dû imposer à notre liberté de circulation se sont avérées très frustrantes. Et pourtant, nous sommes restés sur place, nous avons accompli notre mandat en adaptant notre action. Avec l'appui des gouvernements hôtes et les orientations de l'OMS et en coopération avec nos partenaires des Nations Unies et organisations non gouvernementales, nous avons renforcé nos mesures d'appui en matière de santé, d'eau et d'assainissement, domaine que l'on renforcera plus avant avec UNICEF, alors que nous mettrons en œuvre notre document conjoint dont la directrice exécutive vous a parlé, l'objectif étant d'offrir un avenir meilleur aux enfants. Nous avons davantage communiqué également avec les communautés déplacées, en utilisant les technologies, en établissant des partenariats avec la presse, les médias et les réfugiés eux-mêmes pour tout particulièrement lutter contre la stigmatisation, la discrimination, les problèmes de santé mentale ou la violence sexiste et sexuelle. Nous avons accompagner des projets d'éducation pour les réfugiés de façon à atténuer l'impact des fermetures d'écoles, notamment en mettant en place des programmes d'éducation à distance. Nous avons créé davantage d'espaces dans nos espaces d'accueil et avons augmenté les transferts de fonds, le soutien financier en nature. L'on a pu empêcher l'apparition de foyers épidémiques jusque-là dans les camps les plus importants grâce au fait que les réfugiés et personnes déplacées vivent dans les communautés et non pas dans des camps, justement, et sont ainsi exposés au même risque de contagion que les hôtes. Mais nous ne pouvons et ne pouvons nous permettre de baisser la garde, pas aujourd'hui et nulle part d'ailleurs. Car dans l'intervalle, en dépit de l'appel du secrétaire général, la pandémie n'a pas permis de mettre un coup d'arrêt aux guerres. Les tendances dont j'ai rendu compte précédemment ont continué de se confirmer. Conflits, violences, violations des droits de l'homme, crises politiques n'ont cessé de pousser le nombre de personnes forcées au déplacement sur les routes, ces personnes étant aujourd'hui au nombre de 80 millions, c'est-à-dire le double de ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Le Sahel central demeure le théâtre d'une des situations les plus inquiétantes qui soit, une crise politique, sécuritaire, humanitaire qui a déplacé des millions de personnes. Plus tôt cette année, je me suis rendue dans cette région. Il y a très peu de situations qui m'ont autant choquée. La violence, les brutalités, ces histoires absolument terrifiantes d'assassinats violents de parents alors qu'ils se trouvaient devant les yeux de leurs enfants. Au cours de la seule année écoulée, ce sont plus de 6 000 personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile. Plus de 3 600 écoles ces dernières années ont été détruites ou ont fermé. Ce sont, et c'est là ce qu'il y a plus de plus abominable, des milliers de femmes qui ont été violées, le viol s'inscrivant, qui ont été